C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 121. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA. Eh bien, les cas de VIH sont en hausse au Québec et au Canada. Pourquoi? Comment faire pour renverser cette tendance? Comment contrer le désengagement des gouvernements? Et en même temps, où en est la recherche pour un traitement peut-être curatif? Réponse scientifique et communautaire alors que les communautés soulignent la journée mondiale du SIDA en ce 1er décembre et remettre les personnes vivant avec le VIH au centre des discours sur le VIH avec l'influenceur Super Séro. Et la briochée, l'art de la drague au service des communautés trans.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
Si les avancées médicales ont transformé le VIH en condition chronique gérable, du moins pour les gens qui vivent dans l'hémisphère nord, nous faisons face quand même à une tendance décourageante. Les nouveaux diagnostics ont augmenté avec une hausse de 35 % entre 2022 et 2023. On attend les données de 2024. Et puis à l'échelle canadienne, une recrudescence que plusieurs experts attribuent à un manque de financement et de volonté politique. Alors, pour discuter de tout ça, de cette crise qui couvre toujours, nous recevons, comme d'habitude, un habitué, Nicolas Chaumont, professeur au département de microbiologie, infectiologue et immunologie à l'Université de Montréal. Bienvenue à l'émission, Nicolas.
Merci, bonjour Denis Martin.
Et qui fait aussi la recherche avec CANFAR, on va en discuter. Ken Monty, c'est directeur général de la COX-SIDA, c'est l'organisme qui regroupe à peu près tous les organismes communautaires de lutte contre le VIH ici au Québec.
Oui, 37.
37, c'est du monde. Bienvenue à l'émission. Et Gengis Grenier est infirmier et c'est notre chroniqueur santé. Bien, allô, Gengis, bon retour!
Merci, Denis Martin, bonjour.
Alors, on va commencer par les chiffres. J'aime pas beaucoup ce genre d'arriver avec les mauvaises nouvelles, mais j'ai pas le choix. Une hausse de 35 % entre 2023-2024. On va voir 2022-2023 et on va voir les chiffres pour 2024. Alors, comment expliquer cette recrudescence alors que nous disposons de tellement de moyens pour éviter la transmission, la PrEP, le traitement comme prévention, les tests rapides? Qu'est-ce qui se passe? Qui veut se lancer?
je vais y aller un peu avec mon expérience qui a un éventail assez restreint, là, mais Nicolas puis Kent pourra compléter. Je pense que l'éducation a une part de responsabilité. C'est le fait que les jeunes sont moins sensibilisés à la cause ITSS, l'arrivée des drogues dures aussi. Le cristalmet, j'en parle, je vais toujours continuer à en parler, a établi sa base, une base solide à Montréal. D'un point de vue qui m'est rapporté par ma clientèle, les saunas gays sont devenus, puis c'est peut-être un peu exagéré de le dire, des piqueries à ciel ouvert. Il suffit de se parquer sur une terrasse en face des saunas, puis on est capable de distinguer les drug dealers, ceux qui vendent la drogue, qui sont directement parqués devant la porte principale, qui rendent un peu qui exacerbent, je trouve, les facteurs de risque. Il y a aussi l'accessibilité aux médecins. Là, il y a la loi 2 qui secoue le Québec en ce moment. On n'avait vraiment pas besoin de ça dans le sens où ce que l'accessibilité aux médecins était déjà un enjeu majeur. Puis, il y a aussi les préjugés aussi envers la PrEP. J'ai beaucoup de clients qui arrivent des régions, puis ils ont parlé des méthodes d'utilisation de prévention à leurs médecins dans ce que j'appelle les sept couronnes à l'extérieur de Montréal, puis ils ont fait face à un refus de prescription où ce que le médecin aurait émis des opinions personnelles en région par rapport à ce traitement-là, comme de quoi que c'était coûteux, qu'il voulait pas le prescrire, puis qu'il y avait d'autres moyens alternatifs. Fait que c'est des patients qui se rebutent en ville dans une situation de soins où ce que l'accessibilité aux médecins est quand même assez difficile. On peut pas prendre rendez-vous aisément avec un médecin de famille ou un spécialiste qui peut prescrire des moyens de stratégie de prévention.
Comment est-ce qu'on explique? C'est un échec finalement, Ken?
Hey, c'est un échec. Ça peut être aussi, donc si on veut regarder le bon côté.
À moitié plein finalement, oui.
Oui, ça peut être une indication qu'on fait plus de dépistage.
Ouais.
Et donc, ce serait bon si on n'avait pas un taux tellement élevé de dépistage tardif. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un gros problème.
Quand on dit tardif, c'est des gens qui arrivent, qui sont déjà malades, bien souvent très malades.
Oui.
Qui ont déjà la
donc, avec un système immunitaire déjà très affaibli par le virus. Donc, je peux dire que j'étais dedans. Donc, j'étais dépisté tardivement. Mais 27 ans plus tard, je suis là.
Ouais.
Et donc, c'est pas la fin nécessairement, mais c'est certain que j'encourage tout le monde de se faire dépister dès qu'ils pensent qu'ils ont eu un risque. Et régulièrement pour les gens qui ont beaucoup de partenaires sexuels. Je pense que c'est très important. Mais je souligne la disponibilité de dépistage.
Ouais.
C'est un problème. On vient d'avoir un avis de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, à l'effet qu'ils ne recommandent pas que les intervenants communautaires puissent réaliser des tests rapides.
Ah bon?
Et donc, comme c'est fait en Ontario, en France, au Maroc, en Équateur, dans beaucoup de pays, on élargisse l'accessibilité du dépistage en permettant des intervenants communautaires formés à réaliser des tests rapides.
Je n'ai pas lu cette nouvelle-là. Quelle est la raison évoquée pour dire qu'on ne permet plus aux gens, ou on préfère que les personnes dans les milieux communautaires ne le fassent pas?
Mais c'est un acte réservé. Ils ne voyaient pas les preuves québécoises que ça allait fonctionner ou apporter quelque chose.
Je trouve que ça relève d'une très grande hypocrisie médicale parce que les trousses d'auto, les trousses rapides, c'est des trousses d'auto-dépistage. On peut se les procurer sur Internet, en ligne, en pharmacie. Puis, tu sais, dans le fond, la personne qui désire faire un test rapide, dans le fond, peut bénéficier d'un soutien communautaire, d'avoir une présence à ses côtés lors du test rapide. Je trouve que ça n'a pas de bon sens.
Est-ce qu'il y a des éléments scientifiques qui peuvent expliquer ce qui se passe?
Ben, tu sais, moi, je ne suis pas médecin de santé publique, non. Mais typiquement, dans toutes les épidémies, il y a trois leviers qu'on peut utiliser. C'est le dépistage, c'est la prévention, et puis c'est le traitement. Et puis, on n'est pas optimal sur aucun des trois. Le dépistage, Ken vient d'en parler, il a raison. Sur le traitement, on a encore des gens qui vivent avec le VIH et pour des raisons de non-dépistage qui ne le savent pas et donc qui ne bénéficient pas du traitement. Je vous rappelle que le traitement, ça permet de ne plus transmettre le virus. Donc, d'un point de vue de santé publique, c'est évidemment hyper important. Et puis, il y a aussi quand même le fait, et c'est toujours facile de dire qu'il y a un manque de volonté politique, mais si on y pense, là, au Québec, la dernière campagne de prévention ou d'information sur le VIH, sur le dépistage, elle date de quand? Quand est-ce que vous avez eu une affiche dans le métro pour nous rappeler ce que c'est que le VIH, comment ça se transmet, comment on peut se faire dépister? Donc, je pense que c'est un ensemble de facteurs qui font qu'on est en train de reculer. Je crois qu'il faut le dire, quand même, faites quand même assez réaliste. Et ce qui est désolant, et c'est ce que tu disais au début, c'est qu'on a les moyens pour que ce ne soit pas le cas. Donc, c'est là, en fait, où la volonté politique est évidemment hyper importante. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose.
Je vais ramener sur les dépistages tardifs. C'est quoi la conséquence
de dépistage? La conséquence, c'est que c'est une expérience beaucoup plus difficile. Et donc, on doit avoir des traitements, prophylaxie... contre plusieurs éléments qui peuvent, plusieurs infections ou maladies qui peuvent arriver en stade, donc tardif. Ça ne veut pas dire que les traitements ne fonctionnent pas, parce que les traitements fonctionnent. Donc, je dirais que moi, alors je vais dans mon expérience personnelle, mais j'ai un système immunitaire qui ne va pas réussir à ramener. Donc, parce que j'étais dépisté avec 4 CD4, je n'aurais jamais plus de 300.
Oh.
Donc, pour le reste de ma vie, je souffre une certaine incapacité immunitaire. Mais
qui ne serait pas survenue si tu avais été dépisté plus tôt.
En effet.
D'accord. Ben, au moins, ça le mérite d'être clair. Hein?
Oui.
La PrEP. Ah, t'en as parlé, Gengis. La PrEP, il y a des gens qui disent, ben la PrEP, finalement, on a comme banalisé le virus et ça donne un faux sentiment de sécurité. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça?
Oui. Il y a une forme de déresponsabilisation, je trouve. On est dans une ère où ce que on a un automatisme sur déléguer les choses, se déresponsabiliser. Je trouve qu'on est vraiment dans une ère qui va dans ce sens-là. Puis dans la clientèle, chez les consommateurs LGBT ou dans la population LGBT, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais moi, Gengis, mon partenaire prend la PrEP, mon chum prend la PrEP. » Comme si que la personne, en soi, était déresponsabilisée un peu du port du condom, déresponsabilisée un peu de la prise de la PrEP, ou ce qu'on s'en remet aux autres. Il peut y avoir un faux sentiment de sécurité qui est bel et bien réel chez certains individus. Je tiens à te rassurer, Denis Martin, je pense pas que ça soit la norme, puis je pense pas que ça soit une généralisation non plus.
Je pense qu'il y a aussi de nouveaux outils qui sont intéressants. Donc, il y a un PrEP injectable aux 2 mois actuellement et à l'horizon. Donc, on va avoir éventuellement accès à la PrEP injectable aux 6 mois et donc facilement injectable. Mais là, on revient à une autre question, c'est le coût.
Oui.
Parce que... c'est pas évident pour une personne.
Je pense que j'ai oublié de dire que la PrEP, c'est un médicament qu'on peut prendre qui empêche la transmission du VIH ou d'attraper le VIH. Excuse-moi.
En effet.
Je pense que j'ai oublié de le dire. Ouais.
Mais il y a toujours au Québec une contribution de la personne et pour le traitement et pour la PrEP. Et ça peut être une barrière pour les gens, surtout dans un contexte où il y a une crise du logement, il y a une inflation. Importante au niveau d'alimentation. Tout ça est en compétition avec les 100 $ par mois que ça peut coûter. Mm-hmm. Et donc, on doit éliminer ça.
100 $, c'est beaucoup d'argent.
Oui.
Quelqu'un avec un petit revenu. Et 100 $, c'est vraiment pas un gros investissement pour éviter ce que ça peut coûter au bout du compte de traiter quelqu'un avec le VIH.
En effet.
Ouais. Je pense que je vais m'adresser à Ken aussi, qui est directeur général de la COXIDA, de la Coalition des organismes de lutte contre le VIH et le SIDA. Est-ce que toi, tu vois un désengagement politique? On en a un peu discuté avec Nicolas tantôt, mais est-ce que toi, tu le vois, tu le ressens, parce que tu négocies souvent avec ces gens-là?
Oui, et en effet, on a vu disparaître quelques structures. Et donc, on avait des relations avec la direction de prévention des ITSS, ça n'existe plus. Donc, c'est comme un peu dispersé dans le nouveau Santé Québec et au ministère. C'est difficile. Nous avons tenté depuis 2 ans de rencontrer le ministre. Et nous avons réussi à rencontrer les partis de l'opposition.
Ah bon?
Seulement. Donc, il y a un désintérêt de rencontrer le monde, sauf... probablement le monde avec beaucoup d'argent.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
Gengis a mentionné quelque chose tout à l'heure que je trouve qu'il serait important de ramener. Il y a quand même une crise de consommation, de surdose dans notre monde, en fait, dans nos communautés. Est-ce que c'est quelque chose qui joue dans ces chiffres-là? Je ne sais pas, je devrais peut-être envoyer la balle à Nicolas qui est dans la science.
Alors, ce n'est pas vraiment mon domaine parce qu'en fait, les mécanismes biologiques par lesquels ça pourrait favoriser la transmission sont en fait très incompris là, et très mal compris. Par contre, c'est sûr que Gengis en parlera mieux que moi et Ken aussi, je pense. Mais il y a une association dans les populations qui utilisent ces substances et la prévalence de l'infection à VIH qui augmente évidemment particulièrement dans ces populations. Donc, il y a une association, je dirais, sociologique, là, mais qui n'est pas nécessairement biologique.
Voilà. Gengis?
Moi, je crois que oui. Je crois que l'utilisation de drogues injectables, si les gens, on parlait d'organismes communautaires, si, puis qu'il y a des coupures un peu partout, l'accessibilité au matériel stérile, l'accessibilité au centre d'injection supervisée, l'éducation pourrait faire une grande différence. Dans la population de consommation, dans ma pratique que j'ai en Ontario, je vois que c'est beaucoup plus encadré. C'est que la population itinérante, utilisateur de drogues injectables, je ne vais pas toutes les mettre dans le même panier, je parle vraiment de ceux qui utilisent des drogues injectables, sont beaucoup plus encadrés, puis je les trouve beaucoup plus allumés, beaucoup plus informés sur l'utilisation, l'accessibilité aux tests de dépistage. En Ontario, de ma compréhension, on n'a pas besoin... On n'a pas besoin de l'autorisation du pape pour faire un test rapide au VIH. Ils ont même les tests rapides de l'hépatite C, qui sont beaucoup plus accessibles qu'ici. Tandis qu'ici, ça semble vraiment être un frein. Ceci dit, dans les notes positives, je ne veux pas être la personne qui assombrit ce discours. On a quand même des cliniques médicales puis des pharmacies dans le centre-ville de Montréal qui ont débloqué des ordonnances collectives d'accessibilité à la PrEP pour un peu se libéraliser de la pratique médicale. On fait des pas vers l'avant. La PrEP injectable aussi est plus accessible que ça l'était. On parlait du coût relié à la médication. Je trouve qu'en Ontario, ils font plus de... les programmes compassionnels pour assister la clientèle vulnérable qui ne sont pas en moyen financier de s'approprier de la médication préventive est plus facile versus ici à Montréal. Ça, c'est mon opinion, mais l'utilisation des drogues injectables est un enjeu. Puis j'ai beaucoup de misère à comprendre pourquoi il n'y a pas d'intervention du ministère de la Sécurité publique par rapport à tout le trafic de drogue qu'il y a dans le centre-ville de Montréal. Je trouve ça effrayant. Je trouve ça vraiment hallucinant qu'on marche chaque coin de rue dans le centre-ville de Montréal. Puis si je voulais me trouver du crack ou du cristal meth, c'est quand même plus facile de trouver ça que de trouver un restaurant ouvert à 21h le soir.
Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est un fait. Mais il n'y a pas seulement que ces drogues-là. Parce que le cristal meth, on peut le fumer, il y a toutes sortes d'autres sortes de drogues qu'on peut utiliser et qui peuvent aussi jouer sur le jugement. Et là, les décisions de se protéger ou pas, oui. Où on oublie de prendre la PrEP, on oublie de prendre son médicament.
Oui, mais il faut reconnaître que depuis qu'on a des programmes de distribution de matériel stérile, et ça doit être mieux financé, c'est certain, la population de personnes qui consomment des drogues ne représente qu'un faible pourcentage des nouveaux cas. Donc, ça fonctionne au niveau de prévention de transmission du VIH.
Mais moi, je parle des drogues injectables versus celles qu'on utilise autrement qui font que les personnes ne sont pas nécessairement identifiées comme utilisateurs de drogues. Oui, c'est ça. Ce qui joue sur le jugement. Je pense que ça serait temps de parler d'où on est rendu. Parce que ça fait longtemps là, qu'on a ces recherches hein, depuis avant la pandémie pour voir trouver un traitement au VIH. On en est rendu où? Là, c'est la question du jour pour Dr. Chaumont.
Mais ça me fait toujours plaisir de faire un update là-dessus. Donc, on parle de traitement curatif, c'est-à-dire de faire mieux que les trithérapies qui, comme le rappelait Ken, fonctionnent quand même très bien. Non seulement prolongent la vie des personnes qui ont le VIH et surtout empêchent la transmission. Donc, c'est quand même la révolution du milieu des années 90, c'est les trithérapies. Et depuis, elles ont évolué avec de nouvelles molécules. On parlait de nouvelles formes de PrEP. Il y a aussi des nouvelles formes de traitement qui émergent et qui nous laissent penser que si on a les moyens suffisants, en fait, toutes les personnes qui ont accès au traitement dans peu de temps pourront avoir une charge virale supprimée, en fait. Donc, le problème, c'est vraiment l'accès au traitement, pas tellement la nature des molécules qu'on utilise, même si c'est important de continuer à en développer d'autres. Pour ce qui est du traitement curatif, oui. Alors, chaque année, je fais un update derrière ce micro sur le nombre de personnes qu'on considère comme guéries du VIH. Aujourd'hui, 2025, on en a 9 qui ont été guéries par greffe de moelle, essentiellement. J'en avais parlé de ça probablement l'an dernier déjà, mais ces greffes de moelle, ça consiste à remplacer complètement le système immunitaire d'une personne et on ne peut le faire que chez les personnes qui ont besoin de cette greffe de moelle parce qu'il y a 30% de mortalité associée à cette procédure. Donc, c'est des personnes qui ont des cancers du sang qui peuvent bénéficier de ça. La nouveauté, c'est qu'on pensait que ça ne marchait qu'avec des donneurs qui étaient naturellement résistants. C'est-à-dire qu'on prenait la moelle d'un donneur naturellement résistant au VIH, qui est très rare, 1% de la population caucasienne, et on la mettait chez une personne qui a le VIH et qui, du coup, guérissait. C'était révolutionnaire. Et là, en fait, dans les nouveaux cas, il y a des personnes qui ont reçu une greffe de moelle de personnes qui n'étaient pas naturellement protégées et qui se sont quand même débarrassées du virus.
Ah, quand même!
Donc ça ouvre des perspectives. En fait, on pensait comprendre très bien comment ça fonctionnait et finalement, on n'est pas sûr de si bien le comprendre que ça. Et surtout, ça veut dire que ça peut probablement être étendu à une population beaucoup plus large parce que trouver un donneur protégé, compatible, c'est très difficile. Mais si c'est juste un donneur compatible, ça devient a priori plus abordable. Le truc, c'est qu'il faut régler quand même ce problème de 30% de mortalité qui n'est pas encore réglé.
Mais la barrière reste toujours comment... parce qu'une greffe, la moelle épinière, c'est quand même quelque chose. Pas n'importe qui peut la recevoir et pas n'importe qui peut la donner non plus. Alors, il faut trouver une autre façon de faire cette transmission,
Exactement. Et puis, il y a des protocoles de recherche là-dessus. On se dit, plutôt que de prendre la moelle osseuse de quelqu'un d'autre, on va prendre les cellules de la personne qui a le VIH déjà. On va transformer ces cellules au laboratoire pour les rendre plus combatives ou plus résistantes et les réinjecter chez la même personne, ce qui règle le problème de compatibilité puisqu'on vous réinjecte vos propres cellules. Donc, il y a beaucoup de travaux qui se mènent dans ce domaine-là. J'espère que ça va mener à quelque chose. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Et à chaque fois, je dis c'est un peu tôt parce que c'est vrai. Et je ne peux pas vous dire que ça va arriver demain matin.
C'est une recherche qui est très, très complexe. Il y avait aussi vos travaux sur les réservoirs viraux et la latence. Comment ça va, ça?
Ah, c'est ça. Le but, nous, c'est d'essayer d'éradiquer le virus complètement du corps, ce qui est compliqué parce qu'il se cache partout dans plein de tissus différents. Donc, on a plusieurs stratégies pour essayer de les déloger. Une, c'est... Et ça semble contre-intuitif, c'est de réveiller le virus. Parce que quand il est caché, il est endormi. Et si on le réveille, on le rend visible au système immunitaire, ce qui permet de mieux le combattre. D'autres stratégies consistent à renforcer les défenses immunitaires. Il y a une étude qui vient de sortir de Jean-Pierre Routier, qui est à McGill, ici à Montréal, qui a montré qu'en donnant des anticorps qu'on utilise en cancer, on a à peu près 30% des personnes avec le VIH qui, après avoir interrompu leur traitement antirétroviral, contrôlent le virus. Donc, c'est vraiment des choses prometteuses. Ça ne marche pas chez tout le monde. On ne sait pas pourquoi, mais 30%, ce n'est pas rien, là. Donc, on se rapproche vraiment, je crois, au moins du contrôle naturel. C'est-à-dire qu'on pourrait... à terme, et c'est notre rêve, là, considérer le VIH comme n'importe quel autre virus qu'on contrôle tout seul. Évidemment, notre rêve ultime, c'est de l'éradiquer complètement, quand même.
En tout cas, c'est encourageant. C'est très encourageant.
Oui. Mais on peut voir qu'avec chaque recherche, on apprend un petit peu plus. Ouais. Donc, d'où l'importance de continuer à bien financer la recherche. Parce qu'on va y arriver éventuellement.
Je vais pas repartir une discussion là-dessus, mais je vais quand même le dire. S'il y a 40 ans, quand le virus a été découvert et qui n'affectait que d'une population de mal-aimés, des homosexuels, des personnes qui s'injectaient, les gouvernements n'ont pas fait grand-chose à cette époque-là. Mais si on avait fait à l'époque-là, on ne serait peut-être pas où on est rendu présentement.
Hein? Oui, en effet, le mouvement de lutte contre le VIH a changé la science.
Oui.
Et c'est inséré dans les autour des tables de décision et compagnie. Donc, on peut être fier d'avoir changé ça et de s'impliquer.
Alors, cette année, je vais le dire, c'était pas un choix, c'est arrivé comme ça. On est quatre gars autour de la table, quatre gars blancs, cisgenres. Je vais quand même souligner que cette maladie-là n'affecte pas que les hommes et que les hommes blancs et que les hommes gays, ça affecte beaucoup plus de monde. Et même à l'échelle planétaire, pas tout le monde est égal devant ce virus-là. Ken, ça, je sais que c'est un de tes sujets de prédilection.
Oui, mais ce qui est très important... J'ai vu un lueur d'espoir dans les essais cliniques pour le nouveau PrEP,
ouais.
Qui est injectable deux fois par année. C'est que le premier cohorte à avoir des résultats était des femmes en Afrique du Sud.
Ah ouais!
Et c'était efficace à 100%. Donc, moi, je pense qu'on fait des efforts pour inclure plus de femmes et plus de diversité dans les essais cliniques pour vraiment trouver des molécules qui fonctionnent pour tout le monde. Mais il faut vraiment souligner les aspects de stigmatisation, de rejet. Donc, il y a des gens comme moi qui ont tous les moyens. Donc, j'ai tous les avantages dans une société qui est faite pour des hommes blancs cisgenres. Donc, il faut penser que moi, j'ai toujours considéré que mon travail est d'assurer que toute personne a les mêmes avantages que moi.
Et là, c'est là où j'amène peut-être cette question internationale. On l'a vu depuis l'élection de Donald Trump l'année dernière. Ouais. Le financement de la recherche, le financement de la prévention, du soutien des personnes qui vivent avec le VIH dans le monde, c'est tombé. Oui. Je vois.
c'est une catastrophe à plein de niveaux. Bon, d'abord pour les personnes qui vivent avec le VIH et qui bénéficiaient du programme de financement des traitements antirétroviraux par les États-Unis, PEPFAR, qui est un programme qui a été créé par George Bush père, donc ça remonte à il y a quand même pas mal d'années, qui a été coupé drastiquement par Donald Trump et son administration. Donc ça, c'est un, et c'est à mon avis le plus important, c'est-à-dire qu'on va voir des nouveaux cas de VIH en Afrique et probablement ailleurs, parce que comme toutes les épidémies ou comme toutes les pandémies, le VIH, il circule, donc s'il remonte quelque part, il finit par remonter partout ailleurs. coupure dans les fonds de recherche. Moi, personnellement, j'ai perdu 50% du financement de mon labo qui était financé par les Américains le 1er mai, quand l'administration américaine a dit « on arrête de financer à l'étranger la recherche, en particulier sur le VIH et d'autres ». Donc, l'impact est énorme. Il y a des cliniques de dépistage qui ont fermé, en particulier dans des pays d'Afrique, plusieurs en Afrique du Sud. Donc, c'est un drame à la fois pour les nouveaux traitements qui vont venir, mais aussi pour les, aujourd'hui, là, pour les personnes qui ont le virus aujourd'hui, qui vivent avec et qui ont moins accès au traitement, moins accès au dépistage. Et la PrEP, j'en parle même pas. Dans ce contexte-là, évidemment, la priorité, c'est toujours de donner des antirétroviraux aux personnes qui ont le virus plutôt qu'à ceux qui veulent s'en protéger. Et finalement, évidemment, je veux dire, c'est ce qu'on a en vue, ce qu'on doit probablement faire, mais la perte de temps et le recul qu'on va avoir à cause de ces 6 mois d'administration américaine va être colossal et les répercussions se comptent sur des dizaines d'années.
J'avais lu quelque part, on parlait de 14 millions de nouveaux cas que ça pouvait...
Oui.
Ça vient d'où ce chiffre-là?
Donc, on allait dans la bonne direction avant tout ce dérangement des États-Unis. Il faut dire que Coxidor est un membre fondateur de Coalition Plus. Mm-hmm. Donc, beaucoup de membres sont dans le sud global et tous les organismes dans le sud ont été touchés par les coupures.
C'est terrible.
C'est ça. C'est une catastrophe.
Sur une note alternative, tu sais, je trouve qu'on sort d'une grande ère d'évolution chez l'être humain. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Puis l'Organisation mondiale de la santé s'est réunie au Ghana il y a quelques semaines pour parler de l'implantation de l'intelligence artificielle. Puis je me demande des fois, dans un contexte politique où c'est plus difficile, où des administrations prennent des décisions comme ça, où ce que Ken l'a bien expliqué, puis Nicolas, où ce que ça va avoir des répercussions, on va avoir des dizaines d'années à rattraper en arrière, comment qu'on pourrait mettre l'intelligence artificielle à contribution pour rattraper justement des décisions administratives politiques qui nous font reculer un petit peu en arrière. Moi, je pense des fois, dans mes prédictions un peu plus positives, je pense que ça va mettre à bien un peu ce que d'autres acteurs essaient de mettre à mal. Je pense que l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider beaucoup, l'humanité, dans ces pas-là.
Oui, rapidement.
On aura un grand bénéfice si seulement on remettait l'intelligence.
L'intelligence naturelle. juste, le 14 millions, c'est ce chiffre-là que j'ai entendu, c'est un chiffre qui a de l'allure.
Alors, je n'ai pas devant moi les chiffres, mais l'ONUCIDOR prévoit une augmentation très importante.
Quelle horreur. Messieurs, il me semble que cette année, on est moins optimiste qu'on l'a été l'an dernier. Alors, Nicolas Chaumont, qui est chercheur, professeur à l'Université de Montréal. Ken Monti, directeur général de la Coxida et Gengis Grenier, notre infirmier et chroniqueur ici à l'Heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup. Après la pause, on va parler à un influenceur séropo, il s'appelle Super Séro. Il nous parle de France. Vous allez voir que c'est intéressant ce qu'il a raconté. À tout de suite.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
Connaissez-vous Super Séro? De son vrai nom, Nicolas Aragona, il est né en 1988 et il vit à Nice, en France. Nicolas vit avec le VIH depuis 15 ans. Depuis 2020, il publie des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles il raconte son quotidien. Il le fait avec humour, indignation et revendication. Sa façon de remettre les personnes vivant avec le VIH au centre de la lutte contre le VIH. Nicolas a même créé un drapeau VIH, un peu comme les drapeaux de la fierté. On écoute d'abord une vidéo de Super Séro.
Scroll pas, sinon je te tape.
J'ai un truc à te montrer, mais c'est pas mon cul. Il y a quelques semaines, j'ai proposé un drapeau pour les personnes vivant avec le VIH et je viens de le recevoir. Et je suis tellement, mais pas du tout déçu du rendu. Donc, dans quelques temps, je l'imprimerai en plusieurs exemplaires pour que, plein de gens puissent l'avoir.
Waouh, mais qu'est-ce que tu fais bien le drapeau?
Merci, c'est me démerderai pour que pour les prochaines marches, ben, pas, tout le monde en est plein. Je suis trop content, il est juste, je sais pas quoi dire, il est juste trop beau.
Merci, je dirais même merci à vous tous. Pour les rageux, je vous emmerde et je reste à ma maison.
Alors bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Nicolas.
Ben bien, merci de me recevoir.
On demande toujours aux gens, quand c'est la première fois qu'ils passent à l'émission, on lui demande ben, les pronoms et accords qu'on utilise avec toi.
Peu importe, ben,
il. Alors, Nicolas, tu connais bien la stigmatisation liée à la maladie, puisque tu as grandi là-dedans. Comment as-tu grandi, donc, dans cette stigmatisation?
C'était... Oh. Elle est dure déjà la première question. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais qu'on y aille smooth. Tu vois. Ça a été très compliqué dès le départ, mais vraiment par rapport à la stigmatisation, parce qu'en soi, je n'ai jamais eu de soucis par rapport au VIH. Je n'ai pas connu de phase SIDA, je n'ai pas connu de traitement lourd comme la ZT ou quoi. Moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'ai le VIH. Donc, je n'ai jamais eu de problème de santé vis-à-vis de vivre avec le VIH. Par contre, ça a été. Moi, en fait, c'était suite à une rupture. Je voulais refaire ma vie et j'étais parti à Montréal pour m'installer. Et c'est à Montréal que j'ai fait ma primo-infection et on n'a pas su ce que j'avais. J'ai dû rentrer en France en urgence. C'est le laboratoire qui m'a rappelé en me disant effectivement, il y a une infection, enfin, il y a quelque chose de grave qui demande un traitement d'urgence. Retourne voir ton médecin. Mon médecin généraliste n'était pas là, c'était son remplaçant. Le remplaçant nous a fait attendre, comme dans les années 80, hein, j'étais avec ma mère, il nous a fait attendre des heures dans le cabinet jusqu'à la fin de journée pour nous recevoir une fois que le cabinet était éteint, que c'était la nuit, enfin que c'était très glauque. Tout ça pour nous dire que oui, effectivement, c'est très grave, mais lui ne prenait pas la responsabilité de nous l'annoncer, qu'il fallait que j'attende que ce soit mon médecin qui revienne de vacances d'ici 2 semaines. Donc c'était vraiment surréaliste et même la suite ça a été moi il m'a fallu je crois j'ai attendu 6 ans pour qu'un médecin me dise que j'allais pas mourir tellement même les indications étaient floues. Alors on m'a répété plein de fois faut faire attention, le médecin me disait n'en parler à personne sans m'expliquer pourquoi. Rien que le terme sérophobie, je l'ai entendu que 10 ans plus tard en arrivant sur les réseaux, on n'avait jamais entendu parler de cette discrimination. C'était faites attention. Alors faites attention à quoi ? Je sais pas, c'était très flou. Quoi qu'il en soit, j'avais toujours l'impression d'être toujours à côté de la plaque, parce que si jamais avec mes médecins, je montrais que j'allais bien, on me faisait comprendre que quand même, c'était quand même pas si peu grave ce que j'avais, et que bon, voilà, il fallait pas trop que j'aille bien. Et si j'avais si je montrais à mes médecins que ça allait pas trop, que j'avais pas le moral, bah là on avait tendance à me dire le contraire, du type ouais, ça va, il y a pire, ça va aller. Donc en fait, quoi qu'on fasse,
quoi qu'on fasse, c'était toujours fais attention, n'en parle pas, garde ça secret. Alors comment tout ça, ça t'a amené à créer ce, je sais pas si on peut dire ce personnage, mais du moins cette chaîne sur YouTube, pas sur YouTube, sur TikTok, Instagram, Super Séro.
Je pense que j'ai toujours voulu faire quelque chose dès le départ. Hein, je pense qu'il y a eu, moi, ça a été tous mes amis m'ont tourné le dos. Je me suis retrouvé avec des lettres de menaces de mort du jour au lendemain. Je ne pouvais plus sortir parce que j'avais des insultes et des menaces de mort quand j'allais en boîte.
Sérieusement, des menaces de mort dans les années 2020, là, on parle quand même, je ne sais pas, 2010.
Ouais, il y a 15 ans, la première semaine chez mes parents, j'avais déjà reçu des courriers sur les sites de rencontres aussi. C'était sur Guéroméo à l'époque, même en boîte de nuit. Enfin, j'ai mis quelques semaines avant de retourner en boîte de nuit. La première fois que j'ai pu retourner, on m'a craché à la gueule en me disant qu'on voulait pas de sidaïque dans la boîte. Enfin, c'était vraiment très, très violent. Mais du coup, je me disais bien que, putain, j'ai été ultra étonné de vivre un truc comme ça, parce que quand je l'ai su, j'avais pas eu de problème à en parler, moi, assez librement. Mais quand j'ai vu la violence que je me suis pris dans la gueule, je me suis pas étonné de ne pas en connaître. Parce que j'ai dû me dire, il doit y avoir plein de gens dans ma situation, mais qui en parlent pas tellement c'est violent, quoi. Et donc j'ai toujours voulu faire quelque chose, mais quoi, je savais pas trop. Et puis c'est vraiment au bout de 10 ans, avec la Covid, que je me suis dit peut-être que là, les gens seront peut-être prêts à entendre. Il y a aussi le fait que mon père était décédé, venait de mourir, et que je me suis dit, bon, ben maintenant que mon père est mort, je me sens peut-être un peu plus d'attaque à lutter contre les discriminations, parce que mon père était fragile, c'était quelqu'un de nerveux, etc. Donc je pense que je voulais aussi le préserver de ça.
Tu avais peur donc de le secouer, et puis que ça ait des conséquences sur sa vie, quoi.
Oui, sur sa vie, sur sa santé, quoi.
Et je pense que j'ai bien fait, hein. Quand je vois ce que je me prends, je me suis dit, putain, je pense que...
Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de critiques. Justement, parlons d'abord des messages que tu véhicules dans les... parce que j'en ai vu beaucoup de ces vidéos de Super Zéro. Parlons-en d'abord de ces vidéos. Qu'est-ce que tu véhicules? Qu'est-ce que tu fais comme message?
C'est déjà rien que le point de départ, il est compliqué parce que je viens à la base sur les réseaux pour parler de ce que vivent les personnes vivant avec le VIH, de sérophobie. C'est mon premier angle, c'est ça. C'est déjà de parler de ça et d'essayer de temps en temps d'avoir un ton un peu humoristique que j'ai un peu perdu ces derniers temps avec le harcèlement. Et en fait, même ça, ça a été très compliqué au départ parce que finalement, toutes les personnes sont venues me demander de faire de l'information en santé sexuelle. Donc, on me posait que des questions sur la syphilis, la chlamydia, les IST, où se faire dépister, comment se faire dépister. Et même encore aujourd'hui, c'est compliqué d'expliquer aux gens. Moi, je veux bien répondre aux questions parce que maintenant, on m'a tellement posé ces questions-là que je suis allé chercher les réponses. Donc, je les ai en général. Mais c'est compliqué d'expliquer aux gens. Vous savez, moi, je ne suis pas Santé Publique France, je ne suis pas SIDA Info Service. Si vous avez des questions sur votre santé sexuelle, appelez SIDA Info Service, allez dans des Cégides, allez dans des laboratoires pour vous faire dépister. Mais tu vois, plein de gens me disent, c'est super ce que tu fais quand tu fais de la prévention. Je dis, je ne fais pas de la prévention. Moi, le sujet, c'est les personnes qui vivent avec le VIH. Donc, à la limite, je fais de la prévention sur la sérophobie, contre la sérophobie, mais pas en santé sexuelle. Mais en fait, j'en fais beaucoup, hein, parce que c'est beaucoup les questions, c'est sur ça. Donc, on voit qu'il y a un manque de sensibilisation, d'information sur le fait qu'il y a véritablement un vrai combat à mener pour les droits des personnes vivant avec le VIH, et pour nous, simplement, par rapport à ce qu'on subit tous les jours. Et que si on parle... c'est pas forcément dans l'intérêt des autres dans leur santé sexuelle, c'est pas que je veux pas mais c'est que c'est pas mon rôle. Moi, j'ai pas de formation, c'est des métiers qui sont formés, il faut être informé sur tout ça.
Mais en tant que personne vivant avec le VIH, en tant que personne séropositive, tu possèdes une expertise, celle de la maladie que tu vis et de la sérophobie que tu subis. Et ça, tu peux facilement en parler sur les réseaux sociaux.
C'est par exemple, on vient tout le temps me reprocher de dire que soit je banalise, parce que j'essaie de dire que aujourd'hui, voilà, quand on a un traitement, on va bien, on a une bonne espérance de vie, on ne développe pas la maladie. Donc quand je dis ça, j'ai beaucoup de réactions du type tu banalises. Et quand je dis qu'il y a ça a un fort impact sur notre santé mentale, que la sérophobie isole, qu'il y a beaucoup de gens qui en arrivent à se suicider, à mettre fin à leur jour à cause de cet isolement. Là, on me dit, ça va, tu fais que chialer, mais il y a pire que ça. Bon, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a, je pense que on a tellement mis dans la tête des gens que tout le monde était légitime à parler du VIH, sauf nous, visiblement, que tout le monde y va un peu de son avis. Et c'est un peu compliqué à déconstruire. Après, je dis ça, mais c'est aussi un peu gonflé parce que j'ai quand même aussi beaucoup de soutien. On a beaucoup de personnes qui nous suivent, on a beaucoup d'amour, on a beaucoup de gens qui sont derrière nous.
Ben justement, parlons-en de cette situation-là parce que ça a vraiment atteint un paroxysme récemment parce que je pense qu'on t'accuse de parler au nom de ces organismes ou de prendre leur place, si tu veux. Comment ça s'est déclenché tout ça et on en est rendu où, là?
Et en fait, j'ai voulu être bénévole dans une association qui était aide, et quand je suis allé les voir, je m'attendais je m'attendais pas à ça. Ça a été extrêmement violent parce que quand on m'a demandé ce que moi je voulais faire plus tard ou pourquoi est-ce que je voulais être bénévole ou qu'est-ce que c'était ma sensibilité, j'ai dit que voilà, j'étais séropo depuis 10 ans, que je me sentais très seul, que j'avais l'impression qu'il y avait rien, pas grand-chose pour nous. Déjà à ça, on m'a coupé en me disant non, c'est pas vrai, il y a plein de choses pour les personnes séropositives. Ah bon, je sais pas, je les connais pas. Bon, rien que ça, j'ai senti déjà que je les avais agacés. Et en fait, je disais que je voulais faire une antenne de témoignages pour personnes séropositives, que j'avais beaucoup entendu que visiblement on ne voulait pas parler en tant que personne séropositive parce qu'on avait très peur, mais que c'était pas mon cas, que moi j'ai toujours voulu témoigner. Mais c'est juste dire, quand on veut témoigner, en fait, on contacte qui? Parce que ça n'existe pas, les antennes de témoignages pour personnes séropositives. Et finalement, on parle tout le temps à la place des séropos en disant qu'on veut pas parler, mais il y a rien pour nous rencontrer. Donc moi, j'aimerais bien pouvoir m'exprimer, aller quelque part et dire ce que je pense et ce que je ressens. Ouais. Mais on va où, en fait, quand c'est comme ça? Et là, j'ai eu une réaction hyper étonnante qui a été de me dire que ce que je disais, c'était très, très dangereux, que les personnes séropositives, elles devaient rester cachées pour leur sécurité, que le plus important, c'était que les autres ne finissent pas comme nous et soient séronégatifs. Enfin, des propos qui étaient hallucinants. Et j'ai eu de cesse, depuis 5 ans, de rencontrer dans des structures des discours, moi, que j'appelle préventionnistes. C'est pas de la prévention, c'est du préventionnisme. C'est-à-dire avec des biais assez sérophobes, avec un oubli des droits des personnes séropositives. Et puis, parfois, tu tombes sur des gens qui sont engagés dans la lutte, mais qui ne sont pas engagés pour les droits des personnes séropositives, qui sont engagés parce qu'elles-mêmes ont peur d'avoir le VIH, et je le comprends aussi, hein, et sont engagés parce qu'elles-mêmes se sentent plus protégées, peut-être, en luttant pour eux, pour leurs droits et pour leur accès à la santé. Et c'est important, mais dans certains cas, bon, bah, ça a un peu oublié aussi les personnes séropositives, quoi. Je suis un peu fragile psychologiquement en ce moment, donc je ne sais pas comment vraiment l'aborder, mais même moi, ça me dépasse. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que je tape aux associations en disant que ce n'est pas normal d'avoir autant de visibilité pour ma part sur les réseaux. Là, on touche, je pense que je suis suivi par 500 000 personnes à peu près. Donc, j'ai tous les jours, j'ai des personnes séropositives qui me contactent, qui ont besoin d'aide. Je n'ai pas de relais. Je ne sais pas comment les diriger. Ça fait 5 ans que je pleure aux assos en disant qu'il faudrait qu'il y ait une ligne SOS sérophobie, un espace pour nous, dédié pour nous, dédié pour lutter contre la sérophobie. Moi, je suis menacé de mort tous les jours. Je n'ai pas une association sur la lutte sur le VIH-SIDA qui m'aide. Enfin, je suis un peu. Je me sens un peu dépassé, quoi, par ça aussi.
De me prendre pour un super-héros. C'est à vous que je m'adresse. Si vous pensez que les personnes vivant avec le VIH ne sont pas des super-héros, héroïnes, alors vous n'êtes pas des alliés. Toutes les personnes vivant avec le VIH sont des super-héros, héroïnes. Déjà parce qu'on sauve votre cul, c'est-à-dire que c'est grâce à nous qu'on brise les chaînes de transmission. Et surtout qu'en plus de vous sauver le cul, on se prend de la sérophobie et de la haine sans arrêt. C'est 40 ans qu'on y survit. 40 ans de médias qui nous comparent à des assassins, des violeurs, des contaminateurs. 40 ans qu'on est exclu de la société et qu'on vit dans une putain de solitude. Et 40 ans qu'on vous sauve le fiac. Comment vous pouvez vous prétendre dans la lutte contre le VIH-SIDA? Déjà, ça serait bien d'appeler la lutte contre la sérophobie, hein, on n'est pas en 1985. Comment vous êtes capable de dire à des personnes vivant avec le VIH qu'elles ne sont pas des super-héros, héroïnes, guerrières, queens, ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? On est des putains de survivants. On est des putains de guerriers, on s'en prend plein la gueule tous les jours, on survit. Et vous, vous pensez quoi? Qu'on va être humble? Pardon, mais il faut qu'on soit humble face à l'homophobie. Il faut qu'on soit humble face au racisme, face à la misogynie, face à toutes les formes de discrimination. Donc c'est quoi le plan là? C'est récupérer une lutte qui vous appartient pas et demander aux personnes concernées de quoi? D'être humble et de vous remercier aussi. Parce que les personnes séronégatives qui sont dans la lutte contre le VIH-SIDA, qui me parlent comme si elles étaient concernées, qui pensent que j'en ai quelque chose à faire de leur opinion ou de leur avis sur une lutte qui ne vous appartient pas. Tranquille, hein. Moi, je vois clair dans ton jeu.
Remettez-vous en question. Vous avez vu, j'ai une moustache.
Ben oui, c'est un peu rigolo. Hein. Nicolas Ragona a donc subi beaucoup de violence depuis quelques mois en raison de conflits, notamment avec des associations de lutte contre le VIH en France. Et ceci l'affecte beaucoup, mais il continue sa démarche. Il a même fondé une association pour soutenir les personnes vivant avec le VIH qui subissent de la discrimination, et ça, pas seulement en France.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
La drag queen de la Briochée utilise son art pour faire avancer la cause des personnes trans. Participante à la première saison de Drag Race France, son vrai nom, Maëva Triou, elle dénonce l'invisibilisation des personnes trans. Nous l'avons rencontrée à Paris, mais avant, tiens, je vous propose de l'écouter chanter un peu un extrait d'une adaptation de Voilà, où elle dénonce la grossophobie.
Ne partez pas! Je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
La Briochée, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
Ah, mais là où l'arc-en-ciel se lève, je suis toujours présente. Ça me va.
On pose toujours, à chaque fois que nous avons une nouvelle personne au micro, on demande à la personne quel pronom et quel accord on utilise avec toi.
Pronom féminin, entièrement. Tout fait tout au féminin.
Parfait.
Donc voilà, c'est pas très compliqué.
Bon, alors on utilise ton nom d'artiste,
ouais,
qui est la Briochée, mm-hmm, mais tu es Maëva Triou, ouais, née le 16 mars 1991 à
Royan. Ouais.
C'est quoi l'inspiration derrière ce mot qui fait en sorte qu'on t'a appelée la Briochée?
L'aspiration, en fait, c'est surtout venu... Moi, j'avais un autre nom de drag queen avant la briochée qui était complètement imprononçable et que les gens ne savaient pas écrire. C'était Maïev Merchen. Ouais, non, vraiment, je pense que ce n'était pas ma meilleure création, clairement. Et quand je suis rentré au cabaret de Madame Arthur, donc en 2021, quelques mois avant de faire Drag Race... c'est un des plus vieux cabarets travestis de France, considéré comme le premier d'ailleurs en tant que tel. Et je voulais un nom qui soit très très français pour rejoindre ce cabaret et que ça évoque tout l'imaginaire de Pigalle, notamment des danseuses de cancan du début 20e, comme la Goulue, la Môme Fromage, Jeanne Avril, Nini Patte en l'air, Grille d'Égout. Et en fait, me dire la briochée parmi tous ces noms-là, je trouve que c'est... Il y aurait pu avoir une danseuse de cancan ou une artiste de cet ancien Pigalle qui aurait pu s'appeler la briochée. Et après, bah, je suis aussi... donc même si moi, je suis née en Charente-Maritime, mes parents sont originaires de Vendée. Donc, j'ai énormément... Donc, vers Nantes, j'ai énormément de famille là-bas. Et quand j'allais chez mes grands-parents, du coup, notre petit déjeuner qu'on avait, c'était une brioche très moelleuse qui est une spécialité vendéenne et de Nantes. Donc, voilà, c'est aussi un écho à mon passé, à mes origines aussi. Voilà. Je trouve que ça s'incarne bien aussi dans mon corps et dans mes grosses miches.
Ah oui.
Voilà.
Bon, je savais que j'étais pour rigoler dans cette entrevue. Ça commence déjà. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le drag ou la drag, comme on dit chez nous?
En fait, c'est pas aussi simple que ça, dans le sens où j'ai fait du drag avant même de savoir que j'en faisais.
Ah bon?
Ouais, j'ai pas eu l'occasion de trop raconter cette histoire, mais quand j'étais à la fac à Poitiers pour des études supérieures, donc avant ma transition, moi j'ai pendant très très longtemps j'ai été fascinée par la musique japonaise et par un mouvement de musique japonaise qui s'appelle le visual kei. Donc c'est du rock japonais, mais du glam rock. Et en fait, du coup, tous les membres de ces groupes de rock sont habillés avec des perruques, avec beaucoup de maquillage. Il y a toujours des looks extrêmement androgynes. Il y a toujours même un ou deux membres qui sont ouvertement travestis. Donc, vraiment des drag queens, en fait. Donc finalement, mon premier contact à cette exploration du genre s'est fait avec ce genre musical au Japon. Et quand j'ai commencé à faire de la musique à la fac, du coup, bah, j'ai commencé à m'identifier à ces looks-là, et à vouloir reproduire ça quand j'étais sur scène. Mais comme à l'époque, on n'entendait pas trop le mot drag queen, moi, j'ai absolument pas fait le lien ni le rapprochement, même pas avec le transformisme, parce que pour moi, c'était encore autre chose. Le transformisme, c'est autre chose. C'est le fait d'imiter des personnes. Moi, je faisais pas. J'inventais ma propre identité artistique. Même à cette époque-là, j'avais un nom qui était complètement drag, Nelcha Cosmétique. C'était clairement du drag, mais je le savais pas. Et j'ai participé à une première émission de télé avec ce personnage scénique, Nouvelle Star, en 2013.
Ah, quand même.
Ouais. Et après, j'ai commencé ma transition, j'ai commencé à travailler dans le tourisme, je me suis un peu éloignée de ça. Je devais construire mon identité, ma véritable identité de femme au fur et à mesure. Et après, quand j'ai commencé à me sentir bien dans mon identité, dans mon corps, dans ma peau, en règle générale, je commençais à plus me sentir bien dans mon métier, parce que le tourisme, c'était pas fait pour... Enfin, c'était pas ce que je voulais faire, hein, à la base. Et surtout, je commençais à ressentir un manque artistique très grand. Donc, quand je suis arrivé à Paris, je suis vraiment arrivé avec cette volonté de vouloir remonter aussi sur scène. Et du coup, c'est le milieu drag qui m'a offert ça. Et du coup, ça a fait tout de suite tilt et la connexion s'est faite très rapidement pour moi, parce que dans ma tête, je me suis dit, ah, mais en fait, j'en faisais déjà il y a quelques années, je ne le savais même pas. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était surtout la liberté de cet art de pouvoir vraiment faire ce qu'on veut, de proposer ce qu'on veut sur scène, d'être son propre metteur en scène. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait aussi énormément avec cet art-là. C'était une façon facile pour moi de retrouver la scène et de pouvoir à nouveau m'exprimer sur scène. Et de pouvoir allier ça au plaisir du costume et du reste, en fait.
Tu as un peu répondu à la question, mais je vais quand même y aller de l'avant avec ça. Comment, si ça a joué, comment le drag a joué ou a influencé ton parcours de identitaire?
Ben, en fait, le drag m'a aidé, certes, d'une certaine façon, mais moi, je sais que je suis trans depuis que j'ai 12 ou 13 ans. Je le sentais même avant, mais j'étais pas capable de mettre des mots dessus parce que je ne connaissais pas le mot, tout simplement. Et que quand j'entends le mot pour la première fois à mes 13 ans, je comprends tout de suite ce qu'il en est. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai fait du théâtre depuis vraiment ma plus tendre enfance. J'ai fait du théâtre pendant 15 ans et j'ai toujours demandé à avoir des rôles féminins. Toujours. Donc voilà, mais et puis ma prof de théâtre ne m'a jamais empêché de le faire. Donc j'ai toujours joué des rôles féminins, ou les quelques fois où c'était des rôles masculins, c'était des rôles très très flamboyants. On avait fait une adaptation de Peter Pan, et je jouais Mouche, et j'avais fait un Mouche, mais complètement diluré, flamboyant, vraiment pédé, hein, littéralement sur la tête. Hein. Non, mais vraiment, je veux dire, j'avais peut-être quoi, 13-14 ans, mais j'étais parti sur cette cette vision, moi, que j'avais du personnage, et dans laquelle ma prof m'a jamais mis le moindre carcan. J'ai eu la chance, en fait, de pouvoir m'explorer assez librement, finalement. J'ai jamais eu trop de bâtons dans les roues. Mes parents ont toujours vu ça, et comme souvent, comme du jeu, innocent à la base. Et puis après, quand ils ont vu que c'était quelque chose qui commençait à perdurer, je veux dire, quand je suis arrivé à la fac, j'ai commencé à littéralement troquer toute ma garde-robe masculine pour que de la garde-robe féminine. Et c'est vrai que quand, du coup, je retournais le week-end chez mes parents avec le linge sale, tu sais, qu'on laisse à maman, bon, bah, elle commençait à ne laver que des robes, hein. Donc, à un moment donné.
Et ça s'est bien passé avec tes parents?
Oui, dans l'ensemble, oui. Bah, il y a eu un gros moment où, en fait, tout simplement, on n'en parlait pas.
Ouais.
N'en parlait pas. C'est juste qu'on n'en parlait pas.
Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprenaient pas, parce que
moi, j'étais pas prête à en parler.
Ah, d'accord.
Moi, j'étais pas prête à en parler. J'étais pas prête à faire mon coming out trans, dans le sens où les seuls exemples médiatiques que j'avais en France, c'était tout le temps des histoires qui finissaient mal. Tout le temps des femmes trans qui se faisaient rejeter par leur famille, etc. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai culpabilisé pendant longtemps, d'avoir douté de l'amour de mes parents. C'est-à-dire, mais en même temps, j'ai pas à m'en vouloir, parce que quand on ne montre qu'un pan de l'histoire, on se dit pourquoi nous ça serait différent. Mmh, moi j'étais persuadée en fait que j'allais finir, qu'ils allaient me renier. Parce que je n'avais jamais eu d'exemple inverse. Je n'ai jamais eu d'exemple d'une femme trans qui fait son coming out trans à ses parents, et que ses parents, en fait, lui disent ben, « on va être là, on va te soutenir, et tu restes notre fille hein. ». Je n'ai jamais eu ça comme exemple. Donc forcément, comment je peux même l'imaginer que ça puisse m'arriver? Et en fait, c'est ce qui s'est passé.
Ton art sert aussi une certaine... Comment je pourrais dire... ton art sert aussi à faire avancer des choses. C'est un art un petit peu politique, est-ce que c'est vrai?
J'ai vraiment découvert, moi, une âme militante en moi en arrivant à Paris. chose que je soupçonnais pas. En fait, c'est vrai que quand on découvre avec le drag que tout d'un coup, le fait d'être sur scène, bah, tout d'un coup, les gens nous écoutent, les gens nous regardent. Je veux dire, il y a une espèce de responsabilité qui s'est épanouie en moi, où je me dis, bah, en fait, moi, je n'aurais pas existé et je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans mes aînés avant, qui ont pris la lumière, qui ont pris la parole pour les autres personnes trans, en fait. Et je ne sais pas, il y a une part de moi qui me dit, en fait, je ne dirais pas que je me sens redevable, mais ouais, je me sens responsable, en fait, de le faire aussi pour les personnes qui en ont besoin. Et je pense que chaque décennie, chaque génération a besoin de ses exemples, en fait, et de ses représentations. Je suis très touché de me dire que j'ai réussi à en devenir une.
Tu parles, tu prends la parole, que tu as le courage de le faire, parce que ça prend du courage.
Mais courage, oui, mais c'est aussi parce que j'ai les épaules. Il y a un moment donné aussi, quand je pense que le militantisme, tout le monde n'est pas forcément fait pour ça, déjà, premièrement. Moi, ce qui fait que j'ai ce courage-là, comme tu dis, c'est parce qu'en fait, je suis bien dans ma vie. Quand on a réglé tous ces problèmes-là, quand on a réglé tous ces bagages, en fait, qu'on se traîne constamment, c'est beaucoup plus facile d'aller au-devant des batailles. Et justement, en sachant, et on le sait très bien, qu'on va se prendre des retours de bâton dans la tronche qui ne vont pas faire du bien. Mais si on est bien là où on est, qu'on est bien avec soi-même et qu'on est bien avec son entourage, les gens, ils peuvent m'insulter, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ceux qui pensent que je suis pas une femme, moi, je suis en mode, bah oui, c'est bien. What else? Tu vois, qu'est-ce que ça va changer, en fait? Je m'en fous. En plus, je dis, moi, la prise de parole que je prends, c'est pas pour les transphobes, en fait. Oui, je suis là pour lutter pour la transphobie, mais mon discours, il n'a pas pour but d'atteindre les transphobes, parce que eux, de toute façon, tant qu'ils décideront de rester transphobes, ils resteront transphobes. Je pourrais dire ce que je veux, ils ne changeront pas d'avis. Non, mon discours, il est là pour apporter une contre-parole, pour continuer d'affirmer que ce qu'ils font, c'est mal, et que moi, ma parole, par contre, elle est là pour aider les autres personnes trans qui ont besoin d'être assurées, qui ont besoin de se dire « Ok, je ne suis pas toute seule, il y a d'autres personnes qui sont là pour me défendre, il y a d'autres personnes qui sont là pour apporter un contre-discours, et qui sont là, en fait, juste... pour me montrer en fait que je suis normal, en fait, tout simplement.
J'aimerais t'amener sur deux points qui ont été soulignés, que j'ai retenu dans ce que je disais. D'abord, tu as déploré certaines choses, que la place des personnes trans dans le milieu du drag ou de la drag n'est pas si grande que ça, et que peut-être que dans la communauté queer aussi, la place des personnes trans n'est peut-être pas aussi importante qu'elle devrait l'être.
En fait, ce qui est, mais ça, on le remarque avec plein d'autres minorités, c'est que très souvent, on est utilisé comme des tokens, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment, voilà, on va faire un line-up, on a une drag queen trans, ça y est, on ne va pas en mettre deux, quoi. Mm. Je vais donner un exemple tout con, mais Moon et moi, on ne s'est jamais rencontrés en 2 ans et demi, presque bientôt 3 ans, on ne s'est jamais rencontrés sur un même gig, sur un même booking. Mm. On ne nous a jamais bookés ensemble.
Moon, qui est une autre personne trans.
Moon, qui, ouais. Qui a fait Drag Race saison 2, qui est, ouais, une femme trans aussi, comme moi. Donc, et en fait, nos drags sont complètement différents, mais à aucun moment, en fait, on nous a mis ensemble sur un booking. Jamais, on ne s'est jamais rencontrés. J'ai rencontré plein d'autres de mes sœurs en booking de la franchise, mais à chaque fois, on a l'impression que... Il y a vraiment cette sensation de « Ah, on va mettre une femme trans, une seule, c'est déjà bien. » Voilà, maintenant...
Maëva, merci d'avoir participé
avec
à cette
plaisir.
Émission.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur, et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
Et puis nous, c'est le temps de dire merci à l'équipe qui est derrière cette émission. Merci à Godéric Trobe et Marie Marcet à la recherche. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde et à l'équipe de Canalem, Jean-Sébastien La Liberté, chef de diffusion et chef technique, Philippe Lapointe, directeur d'antenne, et Marjorie Théodore, directrice générale. Je m'appelle Denis Martin Chabot, je suis animateur et réalisateur de L'heure où l'arc-en-ciel se lève.